Politique américaine, Vincent Gosselin.
Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurent dans l'émission Retour de Choc, l'actualité politique de la semaine résumée pour vous chaque semaine par notre spécialiste Vincent Gosselin. C'est maintenant. Bonjour Vincent.
Bonjour Monsieur Laurent.
Vincent, on a beaucoup parlé du nouveau procès en destitution de Donald Trump. De nouveau, il a tourné court très rapidement. Est-ce que vous voulez revenir rapidement sur les faits pour nous?
Oui, absolument. Le procès a commencé mardi dernier et s'est terminé samedi avec l'acquittement de l'ancien président Donald Trump. Il était accusé, je vous le rappelle, d'appel à l'insurrection dans tout le contexte des émeutes du 6 janvier au Capitole. Et c'est sans grande surprise, évidemment, qu'il a été acquitté parce que, vous savez, quand on parle de destitution, ça prend un vote aux deux tiers du Sénat pour la condamnation. Ça veut dire 67 votes, 67 sénateurs sur 100, mais dans un Sénat divisé à 50-50, ça aurait pris 17 républicains pour condamner M. Trump, mais finalement, ce sont 7 républicains qui ont voté pour condamner M. Trump. Donc, il aurait manqué 10 votes, en fait, pour se rendre aux 67 requis, parce que le vote était à 57 pour la condamnation et 43 pour l'acquittement. C'est ce qui explique qu'une majorité de sénateurs ont reconnu coupable M. Trump, mais c'était pas assez pour atteindre le 2 tiers. Et parmi les 7 républicains, déjà, il y en a qui font face à de la censure au sein de leurs États respectifs, parce que on en a parlé la semaine dernière avec Liz Cheney, la représentante du Wyoming, qui s'est fait censurer dans son État par le Parti républicain du Wyoming. Et bien là, il y a des représailles pour certains autres républicains.
Et c'est bien le cas, d'ailleurs, de Mitch McConnell lui-même. Je crois que Donald Trump et certains de ses supporters appellent maintenant à se retourner contre lui. On a l'impression qu'il a joué une sorte de double jeu, Mitch McConnell. Est-ce que vous voulez nous expliquer?
Tout à fait. C'est un double jeu de Mitch McConnell, le leader de la minorité républicaine au Sénat, parce qu'il avait laissé planer le doute là, quelques jours avant le vote, s'il allait voter pour ou contre, on ne savait pas encore. Mais finalement, samedi, il a voté pour l'acquittement de Donald Trump. Donc, il dit que le procès était inconstitutionnel, qu'on ne peut pas destituer un ancien président qui n'est plus en fonction. Mais tout de suite après le vote, Mitch McConnell s'est levé en chambre, il a pris la parole, et il a fait un discours, ceci dit, très habile, où il condamne Donald Trump, il le tient responsable des émeutes, il décrit ses paroles, ses actions. Et bon, il joue sur les deux tableaux, là. Donc, d'un côté, il a voté pour l'acquittement, mais de l'autre, tout de suite après, il a condamné Donald Trump par un discours, par des mots. Et évidemment, M. Trump ne se laisse pas critiquer sans répondre. Il a hier émis un long communiqué de presse où il critique personnellement M. McConnell. Et ce qu'il faut comprendre, là, c'est vraiment les deux hommes représentent deux fractions distinctes du Parti républicain. Et donc, deux fractions rivales maintenant. Après une alliance de 4 années où Mitch McConnell était fidèle à Donald Trump, eh bien maintenant, il se sépare et prend ses distances de l'ancien président.
Et quand on observe ce sondage qui a été réalisé par Fox News il y a quelques jours, on a l'impression que c'est aussi le cas d'une partie de l'opinion publique américaine.
Exactement. Il y a aussi un sondage ABC News Ipsos qui a été fait également dans la fin de semaine. On voit vraiment la division partisane entre les partis. Là. Il y a quand même 58% des Américains qui pensent que Donald Trump aurait dû être condamné. Ce chiffre-là baisse quand même à 14% chez les Républicains. Et fait à noter, les 7 Républicains qui ont voté pour la condamnation représentent justement 14% du caucus républicain au Sénat. Et donc, oui. C'est tout un hasard que 14% des Républicains dans le sondage disent que la condamnation était une bonne chose, et c'est pas produit évidemment, mais 7 républicains ont représenté, c'était proportionnel, ce qu'on peut dire, mais évidemment, le chiffre s'élève à 88% chez les démocrates, 64% chez les indépendants. On voit la grande division, parce qu'il y a quand même 8 républicains sur 10 qui disent que le procès aurait tout simplement pas dû avoir lieu. Mais il y a une chose qui est unanime dans ce sondage-là, peu importe le parti, peu importe l'allégeance politique, les Américains s'entendent à 77% pour dire que les sénateurs ont voté sur une base partisane. Donc ça, c'est clair, il y avait de la politique dans ce procès-là.
En effet, alors pour pallier l'échec de cette deuxième procédure de destitution contre Donald Trump, on parle également, je crois, d'une commission d'enquête indépendante?
Exactement, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a annoncé qu'elle a l'intention d'entamer une enquête indépendante, une commission d'enquête dans le style de ce qui avait été fait à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Donc, ce serait une commission d'enquête du Congrès, mais ce ne seraient pas des membres du Congrès qui siégeraient, parce qu'on veut vraiment que ce soit indépendant. Donc, ce seraient des commissaires qui seraient la lumière sur ce qui s'est passé le 6 janvier lors des émeutes. Donc, vraiment dans le style de ce qui avait été fait dans les jours suivant l'attentat du 11 septembre.
Alors, dans tout ça et dans ce deuxième procès, on n'a pas beaucoup entendu parler de l'ancien vice-président Mike Pence. Où est-il?
Oui, exactement. On sait que les procureurs démocrates, pendant le procès, ont beaucoup misé sur les menaces de mort qui avaient été faites à l'endroit, oui, de Nancy Pelosi, mais aussi à l'endroit de Mike Pence. Parce qu'on se souvient des émeutiers voulant menacer de mort Mike Pence, disant qu'il voulait le pendre, tout ça. Donc, les démocrates ont beaucoup misé là-dessus lors du procès. Et là, on se demande, où est-ce qu'il est, M. Pence, à l'heure actuelle? Ce qu'on en sait, c'est qu'il a ouvert un bureau de transition dans le nord de la Virginie. Parce que vous savez que le président et le vice-président ont droit à 6 mois de service de transition pour finaliser les dossiers officiels. Et donc, il a ouvert son bureau de transition en Virginie. Mais on dit même que M. Pence, à l'heure actuelle, serait sans domicile fixe, oui. Parce que en 2013, il est devenu gouverneur de l'Indiana, mais il a vendu sa maison pour aller dans la résidence officielle du gouverneur. Et puis, il est devenu tout de suite après vice-président. Donc, il a aménagé à la Maison-Blanche, donc sans interruption. Il était politicien, donc il y avait des résidences officielles. Donc, il n'y aurait pas de maison à proprement dit pour le moment, mais il a promis à sa femme de retourner dans leur état de l'Indiana. Et on se demande aussi, que va faire Mike Pence après la politique? Peut-être il aura des ambitions présidentielles dans le futur, mais pour le moment, il s'est associé avec un lobby conservateur qui est un laboratoire d'idées. En anglais, on dit un think tank, là, c'est The Heritage Foundation, qui est un lobby conservateur pour faire la promotion de ses idées conservatrices, tout ça. Donc, Mike Pence s'est associé avec ce groupe de réflexion-là.
Voilà, et puis Vincent, dans tout ça, le nouveau président américain Biden, comment est-ce qu'il se positionne par rapport à cet échec de ce deuxième procès de destitution de Donald Trump?
Oui, évidemment, M. Biden a toujours voulu garder les deux pieds en dehors de ça. Parce que parler de destitution, c'est l'affaire du Congrès, c'est pas l'affaire du président de se mêler de ça, encore moins quand on parle de son prédécesseur. Ça, c'est inédit. Alors, M. Biden a réagi simplement en disant que la démocratie est fragile. Ça en dit beaucoup en peu de mots, oui. Donc, même hier, il était en town hall, en forum public sur CNN. Il a été questionné, il n'a pas voulu en rajouter davantage. Mais d'ailleurs, hier, sur CNN, parenthèse là-dessus, il a été très bon. Parce que vous savez que M. Biden, on en a déjà parlé un peu de son empathie. C'est un homme très empathique. Ouais. Il est très bon dans les interactions sociales. Donc, hier, il était dans son élément là, en répondant aux questions des citoyens. Et la pandémie, évidemment, c'est l'enjeu numéro un. Parce qu'il a été un peu éclipsé avec la procédure de destitution. Toutes les chaînes câblées d'information diffusaient le procès. Les conférences de presse de la Maison-Blanche étaient beaucoup moins couvertes. Ce qu'annonçait M. Biden avait moins de retentissement médiatique. Là, la tendance va s'inverser. M. Biden va avoir l'attention médiatique qu'un président normalement a. Et ce qu'on a appris hier, c'est que tous les Américains qui voudront se faire vacciner pourront l'être d'ici la fin juillet. Donc, la fin juillet, on parle d'une dose pour tous les Américains. De notre côté, au Canada, le premier ministre Trudeau dit que c'est en septembre.
Voilà, et puis pour terminer, Vincent, sur une note plus légère, lundi, c'était le jour de la famille chez nous, mais c'était également un jour férié aux États-Unis, le jour des présidents, justement. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots?
Oui, absolument. C'est une fin de semaine de 3 jours quand même. Au départ, là, c'est quand même vieux. Il y a toute une histoire derrière ça. Parce que au début, en 1880, on avait mis ce jour férié-là le 22 février pour commémorer l'anniversaire de George Washington, premier président américain, symbole fort et non le moindre. Là, c'est le premier président américain qui est encore aujourd'hui vénéré et honoré et avec raison. Et là, par la suite, Abraham Lincoln est devenu important avec, entre autres, l'abolition de l'esclavage et l'anniversaire de M. Lincoln, c'est le 12 février. Alors, on ne pouvait pas faire 2 jours fériés dans le même mois, le 22 et le 12 février. Alors, on a décidé de choisir le 3e lundi du mois de février pour en faire le jour des présidents et ainsi commémorer tous les présidents américains. Il y en a 45 jusqu'à maintenant. M. Biden est le 46e, mais la 45e personne à occuper cette fonction. On s'en était déjà parlé il y a quelque temps. Mais bon, vous savez, aux États-Unis, peut-être par le manque de famille royale, la famille du président des États-Unis et le président lui-même incarne vraiment le pays. C'est la personnification du pays à travers le chef de l'État. Donc, c'est ce qui fait qu'on célèbre le président. On le fait durant la journée de lundi, ce jour férié aux États-Unis.
Et voilà une anecdote que j'ignorais. On en apprend tous les jours. Merci Vincent Gosselin sur les ondes de Choc FM 105.1 pour cette belle synthèse de l'actualité politique chez nos voisins américains.
Merci à vous, toujours un plaisir.